une création.
Blast.
Seul comme toi, un podcast de Lou Robert, réalisé par Vincent Deck. On est tous seuls, à un endroit, sous notre peau, dans notre lit, dans le froid, dans nos oui quand on nous demande si ça va, dans notre tête, dans la foule. L'idée de ce podcast est de donner du sens à nos solitudes, ou du moins, les faire entendre. L'idée, c'est d'être seul ensemble.
Alors, je m'appelle Olivier, j'ai 53 ans, j'ai 3 enfants.
Épisode 9, Olivier, l'homme aux deux vies.
Mon rapport à la solitude, terrifiant pendant mon enfance, où tu comprends pas pourquoi quelque chose en toi te tiraille. À l'âge d'un enfant, c'est terrifiant.
Olivier a 53 ans. Il est pilote d'hélicoptère pour le SAMU. Il a les yeux clairs, la voix douce. On se rencontre chez moi un après-midi froid et ensoleillé. Penny lui aboie dessus. Il n'a pas peur, s'agenouille, lui fait sentir sa main. Elle se calme vite, va s'allonger sous la table. Quelque chose de sage émane de cet homme, comme s'il avait vécu plusieurs vies, qu'un passé douloureux avait mis cette lumière sur son visage. La lumière des résilients, de ceux qui ont connu le pire et qui sont toujours là, à voir de la beauté, là où la plupart ne voient rien. Il y a une dizaine d'années, Olivier a voulu mourir. En France, près de 9000 personnes se suicident chaque année. Olivier aurait pu faire partie de ce nombre. Les rayons du soleil traversent la pièce et viennent se poser sur sa main. J'appuie sur play. Et je le laisse me raconter.
Ma crise suicidaire, oui. Avec mon passage à l'acte. Tu es seul à ce moment-là. Une sorte d'enfoncement que tu ne maîtrises pas. 50 glissades dans un entonnoir. Tu es comme emprisonné par toi-même, quoi, par tes propres réactions, par tes propres sensations. Ça t'enferme.
Tu parles d'une glissade. Comment ça a commencé? Quel âge t'avais?
Alors, ça a commencé en 2005, après la naissance de mon premier fils. La naissance de mon premier fils a eu des résonances, en fait, en moi. Ça a fait ressortir certains démons. Et bien, face à ça, ma relation avec ma compagne, qui s'est forcément dégradée. Moins de communication, problème de sexe. Forcément, l'autre s'interroge. Pourquoi t'es comme ça? Pourquoi tu réagis comme ça? Alors que toi-même, tu ne le sais pas. Pourquoi on ressent un tel dégoût envers son propre corps, pourquoi on sent un tel dégoût envers le fait d'être nu ou de faire l'amour. J'ai consulté, j'ai fait une première séance de psy, qui a été une véritable catastrophe. Je suis avec mon fardeau, elle a mis des mots sur des traumatismes, la maltraitance, la pédophilie, des choses qui marquent un enfant. Cette première séance de psy a été très compliquée. Je suis ressorti beaucoup plus lourd que je n'étais rentré. Et je me suis enfoncé petit à petit. Je prenais la route pour aller au boulot. Je me demandais quel platane j'allais prendre, quel choix de platane j'allais prendre. Et puis j'allais au boulot. Puis la journée se passait, puis je rentrais, et je voyais ma compagne, et je voyais mon fils, puis je repartais le lendemain. Mais en fait, plus grand-chose n'avait de sens. Les seuls échappatoires, c'est que je pouvais partir à l'étranger. La naissance d'un deuxième enfant, qui se passe bien, mon deuxième fils. un déménagement, la naissance d'un troisième enfant, ma fille. Et puis, mais les lourdeurs sont toujours là, le rapport au sexe est toujours aussi compliqué, le rapport avec soi-même est forcément toujours compliqué. On accumule, jusqu'au moment où le corps dit stop, l'esprit dit stop, et il est déjà bien trop tard. J'étais déjà dans mon entonnoir. Et depuis quelques années. Et puis ben forcément, on n'a plus envie d'être là, quoi. Donc, la seule issue pour se soulager, c'est de partir.
Tu l'as pensé, ce suicide, ou tu, juste un moment, tu t'es dit stop ?
Je l'ai pensé, oui. Je l'ai pensé quand je faisais mes trajets domicile-boulot. Parce qu'on ne voit que la tentative qui a pour issue l'arrivée aux urgences psy. Et après, voilà, on ne voit que celle-là. Les 5 ou 6 autres, on ne les voit pas. Parce qu'on les cache. Parce que ça m'est arrivé de partir avec une grosse rallonge de fil électrique. Le nœud était bien fait, tout était bien fait. Et je ne me suis pas lancé, quoi. 5 fois comme ça. Et la 6e, c'est là où on m'a retrouvé. Mais ce n'était pas par pendaison. C'était médicaments, alcool, cutter. Mais je ne sais pas si on peut dire que j'ai planifié. Quand j'étais dans cette... C'est un engrenage assez vicieux parce que ça te prend comme ça. Et puis, j'arrivais pas à maîtriser de toute façon. Mon esprit était complètement embrumé, mon cœur était complètement pris par des émotions que je ne maîtrisais plus. Et tout ce qu'il y avait autour de moi s'est effacé. Ma femme, mes enfants qui avaient grandi, mes amis, mes collègues. C'est comme dans un rêve, en fait. Tout ce qu'il y a autour de toi se floute. Et ça se floute tellement que tu es tout seul avec toi-même. Je me suis retrouvé tout seul avec moi-même et dans un espèce de tunnel où bah, ça y est, c'est parti. On y va. Je prends ça. Et j'y vais. Je voulais que ça se termine. Tout simplement. Et après, c'est très très vague, parce que les médocs plus l'alcool, j'étais complètement shooté. Je me souviens même plus d'ailleurs de mon arrivée à l'hôpital, mais c'est le chaos quand même après. Pour remettre les choses dans l'ordre, ça prend beaucoup, beaucoup de temps et... En fait, ce passage à l'acte, cette tentative de suicide, c'est un virage. Alors, je le dis aujourd'hui, c'est un virage à 90 degrés dans ma vie, où j'ai finalement compris qu'il fallait que je prenne le temps d'apprendre qui j'étais. Même si les événements ont été dramatiques, que ça a foutu mon couple en l'air, que les enfants ont très certainement souffert a posteriori. Mais aujourd'hui, je sais qui je suis, quoi.
Je fais partie de ceux qui comprennent le suicide. Je ne le conçois pas comme un acte lâche, c'est autre chose. On ne veut pas mourir, on veut faire cesser la douleur. On veut le calme. On avale une boîte de cachets, on s'endort dans son lit. On saute sur les rails du métro. On jette d'un pont, ça dépend des gens. J'ai mis du temps à écrire sur Olivier, parce que ça remue des choses en moi. des choses qui m'ont envoyé faire quelques séjours en psychiatrie pendant mon adolescence. Depuis quelques années, je peux dire que je vais mieux, que j'ai progressé. Vers quoi, je ne sais pas. Mais je me suis éloignée du fond, des cicatrices et des boîtes de somnifères. Je ne fais toujours pas partie de ces gens joyeux qui trouvent la vie merveilleuse. Mais comme Olivier, je vois la beauté. Comme Olivier, cette douleur m'a aidée à savoir qui je suis. Ça paraît simple, écrit comme ça, mais Olivier et moi, on sait que ça ne l'est pas. Tu me parles de tes traumatismes, t'as dû t'y confronter, du coup, après ta tentative de suicide, t'as décidé de les regarder en face, t'en parler.
J'ai plus de tabou à parler de ça. La maltraitance, j'en ai jamais parlé avec ma mère, forcément. Pour moi, c'est pas ce qui est important. L'important, c'est d'abord de lui avoir pardonné. Et puis, la deuxième chose, c'est de surtout ne pas... Je suis très contente de ne pas avoir reproduit ça sur mes enfants. La pédophilie, ça a eu un impact plus fort parce que ça a beaucoup altéré mon rapport à mon corps. Ça a beaucoup altéré mon rapport à la sexualité. Et ça peut paraître quelquefois... Ça a pu paraître étrange par rapport à certains de mes partenaires. Et la maltraitance ne me marque plus. Mais la pédophilie, il y a des odeurs, comme ça se passait toujours à la piscine, il y a des odeurs de l'odeur de chlore. L'infrastructure d'une piscine peut me... certains vestiaires peuvent me... Alors, ça ne crée pas d'angoisse ou quoi que ce soit, mais ça me rappelle que, attention, ici, il y a des gens qui peuvent être malsains, quoi. Et je suis très attentif à ces ambiances. Parmi tous les gens qui vont nager, je pourrais vite déceler un regard lubrique de quelqu'un qui regarde un enfant avec un œil malsain.
T'avais quel âge quand l'épisode de la piscine t'est arrivé?
Je pense que j'avais entre 6 et 9 ans. Et mon père nous emmenait tous les dimanches, avec ma sœur, tous les dimanches à la piscine. Donc c'était tous les dimanches, en fait, que ça se passait. Et oui, c'est ça, ça a duré 6-9 ans, entre 6 et 9 ans. Je me souviens très bien de cette piscine, de comment elle était faite, du vestiaire. Je rentrais dans la douche et dès que tu sortais de la douche, on avait accès au bassin, et le premier bassin sur lequel mes yeux pouvaient jeter leur regard, c'était le bassin où les choses se passaient. Donc je savais si cette personne-là allait être présente ou pas, quoi. Si elle était là, si je la reconnaissais, ça allait être... En tant qu'enfant, tu vas dans l'eau, tu as tellement envie d'y aller. Tu vas à la piscine, c'est pour aller dans l'eau. Et tu te dis, peut-être qu'il va me foutre la paix aujourd'hui, quoi. En général, non, il ne nous foutait pas la paix, non. On passait les uns après les autres. Mais ces souvenirs sont intacts. Hein. Je dois dire que... C'est intact.
Et personne ne le voyait?
Non, personne ne le voyait. Je dis ça, c'est dans les années 70, hein. Les maîtres nageurs faisaient leur boulot de maîtres nageurs. Ils avaient un sifflet, et dès que c'était un peu trop le souk dans le bassin, c'était un coup de sifflet. Mais ils ne faisaient pas attention à un homme qui joue, c'est juste un homme qui joue avec les enfants. Ils ne pensaient pas que cet homme-là nous touchait et nous... Ouais, nous touchait, quoi. C'était transparent. Il n'y a que nous qui en souffrions, On était un groupe de gamins. Lui s'amusait, nous on était ses jouets. Quoi. Ça ne durait pas très longtemps, c'était quelques secondes.
À répétition.
Quelques secondes sur toi, quelques secondes sur un autre, quelques secondes sur... voilà, puis il revenait à moi après, puis il repassait à un autre, et puis à un moment, il lâchait l'affaire, soit il s'en allait, soit mon père venait me rechercher, et puis on rentrait. Donc, il n'y avait pas de... Non, t'en parles pas. T'es soulagé de partir, et puis je me posais même pas la question de savoir ouais, est-ce que je vais revenir dimanche prochain. Non. C'était un passage. Voilà. J'arrivais à la piscine et puis il devait se passer ça. Parce que ce mec était là. Point.
Enfant, tu vis des traumatismes et tu les enfouis après ? Tu n'y penses plus ? Ou t'y penses ? Jusqu'à la naissance de ton fils ?
Non, tu n'y penses plus. Tu vis ta vie. Tu vis ta vie de collégien, tu vis ta vie de lycéen, tu vis ta vie de militaire. Moi, j'étais militaire au tout début de ma carrière professionnelle. Et tu les enfuis, puis à un moment, oui, il y a un événement dans ta vie qui fait que ben, ça ouvre la boîte de Pandore, quoi, et avec tout ce que ça peut engendrer. Et c'est là où ça peut passer, où ça casse. Me concernant, ça a cassé. Mais pourquoi ça m'arrive à moi, là, à ce moment-là ? Pourquoi la naissance de mon premier fils a provoqué cela.
T'avais des images qui sont revenues ?
Ouais. Tu te souviens de... Rien qu'en en me remémorant l'image de cet homme qui me touche, mon corps le ressentait. J'avais la sensation qu'effectivement on me touchait. Et c'est effrayant, quoi. C'est du dégoût envers toi-même. Je me sentais sale. Sexuellement, je me sentais sale. L'acte sexuel, à cette période-là, c'était pour moi un véritable calvaire, quoi. Pour moi, c'était sale. Donc, ça se traduisait physiquement. Je pouvais être blanc, en sueur... des nausées, une boule au ventre qui te prend tellement que ben stop, faut arrêter. Va faire comprendre à l'autre que t'es en telle souffrance intérieure physiquement que un instant qui doit être partagé où tu dois ne ressentir que du plaisir et de l'envie finalement devient une source de dégoût et de répulsion, quoi. Pas envers l'autre, mais envers toi-même.
Tu lui en as parlé à ta compagne de ça ?
Non, j'ai pas pu lui en parler. Elle a cru que j'étais homosexuel à un moment. Qu'en fait, je n'étais plus attiré par son corps. Non. J'en ai pas parlé parce que j'ai pas su comment... Déjà parce que je le comprenais pas moi-même. J'en ai jamais parlé. Jamais. J'ai gardé ça... Cette explication-là, ce rapport à mon corps, je l'ai gardé pour moi. Pour avancer. J'avais pas besoin de partager ça avec ma partenaire à ce moment-là, avec les partenaires que j'ai eus après, j'avais pas besoin de le partager parce qu'en fait, j'avais pas envie de le changer. C'est-à-dire que mon corps réagissait comme ça face au sexe. Ça faisait partie de moi. Et j'avais pas envie de mettre un masque et de faire croire ce que je n'étais pas, quoi.
ça passe toujours par le corps. Le traumatisme, la douleur, les sensations, les images aussi, tout est là. Une grande éponge qui absorbe tout, et si on laisse faire, garde tout. À un moment, ça ressurgit. Chez Olivier, ça s'est traduit par une grande souffrance, un dégoût insupportable. Les mains sales de la piscine n'étaient pas seules à se tapir dans l'ombre. Olivier a été victime de maltraitance. Le suicide était une manière de se libérer des affres de son enfance.
La maltraitance, ouais. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, c'est encore une situation que j'ai du mal à qualifier comme maltraitance. Comme quoi... À la maison, il y avait un martinet. Une espèce de manche avec au bout des lanières de cuir. Il était tellement utilisé, d'ailleurs, ce martinet, qu'il en restait que quelques lamelles à la fin. Il était bien caché. Enfin, pas assez, parce qu'on savait où il était. Ma sœur et moi. Mais entre ma sœur et moi, c'est plus moi qui ramassais. Alors, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir pardonné à ma mère, mais c'est un épisode moins traumatisant que si on parlait de pédophilie ou de choses comme ça. Ouais. Mais la maltraitance en soi, je ne sais pas. Il y a comme un point d'interrogation autour de cette... Je n'arrivais pas à... J'en parle avec ma mère, mais ça n'arrivera jamais.
Pourquoi ?
Oh, parce que elle a subi une enfance traumatisante aussi et n'en a pas fait son deuil, elle n'a pas fait le travail pour se l'expliquer et pour pardonner aux gens qu'elle devait pardonner. En parler avec elle ne serait... Ça serait hors du temps pour elle. Et puis hors du temps pour moi. J'ai plus besoin de démystifier cet épisode ou de le... Voilà, je l'ai accepté, j'ai pardonné dans un sens. Je pense que le travail est fait et que... Voilà. Maintenant, oui, ça reste un point d'interrogation. Pourquoi en arriver à un point où il faille...
Ça arrivait souvent ?
Oh, ça arrivait souvent, je sais pas, régulièrement. Hein. Mon père n'était pas souvent là la semaine, souvent en déplacement. Ma mère faisait ce qu'elle pouvait pour nous éduquer, pour subvenir à nos besoins. On n'a jamais manqué de rien. Sauf qu'elle avait ses forces et ses faiblesses. Et lorsqu'elle était dans ses moments de faiblesse, que la solution, c'était le martinet, quoi. Ça faisait très mal. C'était bref, hein. Brutal, mais bref. J'ai pas été en contact avec ma mère pendant près de 13 ans. J'ai renoué dernièrement.
À cause de ça, tu penses ?
À cause de ça, à cause de la disparition de mon père, où ma mère m'en a tenu rigueur. Ça a été son réflexe de défense. Elle pouvait pas s'en prendre à elle-même ou à la maladie, parce que la maladie l'avait emportée, donc elle s'en est pris à personne qu'elle pouvait très certainement le moins aimer, donc moi. Ben voilà, ton père est mort à cause de toi. Ah, merci, j'ai bien fait de rentrer d'Afrique pour entendre ça. Donc j'ai coupé les ponts, j'ai plus jamais. Et puis j'ai pardonné, c'est pour ça que je suis... revenu vers elle, mais pas en tant que fils, en tant que membre de la famille. Je suis plus son fils depuis bien longtemps, donc... Mais c'est pas grave. Je le fais aussi pour mes enfants. C'est important pour eux de leur dessiner le lien familial. Maintenant... Ils ont contact avec ma mère, tant mieux. Ils n'ont pas contact, c'est eux qui dessinent. Je suis plus son fils depuis bien longtemps. Ce n'est plus ma mère depuis bien longtemps non plus. On a un lien de sang, c'est tout ce qui nous lie.
Tentative de suicide et une deuxième vie, une renaissance après.
C'est, oui, complètement ça. C'est ça, exactement. Une vie avant, une vie après. Ouais. Une renaissance. Ça permet de se donner une chance et ça permet de s'accepter comme on est soi, avec ses traumatismes, mais aussi mettre en avant ses forces. Je suis comme ça, je l'ai accepté, je suis pleinement heureux d'avoir compris pourquoi et de pouvoir être juste heureux aujourd'hui tout en ayant subi cela, quoi.
Face à moi, j'ai un homme apaisé. Ça prend du temps. Se pardonner, s'ouvrir, faire confiance. Olivier parle de renaissance. Il finit son thé, me remercie. Il ira courir après notre entretien. J'irai à la boxe, pour évacuer, puis pour sourire aussi, pour se dire que c'est bien d'être là. La mort n'est jamais bien loin, je le sais. J'évite de trop y penser. Je regarde Olivier se lever, remettre son manteau. Il me dit à bientôt. Je ferme la porte. Je m'assois sur mon tapis. Penny s'empresse de venir me lécher le visage. On reste ainsi, sans bouger. J'écoute sa respiration. Je repense au chemin parcouru, de mon adolescence à ce tapis. Je reste collée à Penny, ferme les yeux et souris. Merci à Olivier pour sa confiance. Seul comme toi, un podcast de Loulou Robert, réalisé par Vincent Deck. Et si vous avez aimé ce podcast, que vous pouvez écouter et télécharger sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple et Google Podcast, n'hésitez pas à le partager et à vous rendre sur le site de Blast. Vous pourrez vous abonner si vous voulez que l'expérience sonore éditoriale continue.
Création. Blast.